الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو الخامس من شهر شعبان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس السادس والخمسين من قراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 23 mai 2015 et ceci est la 56e assise et c'est l'avant-dernière, inshallah, de la lecture du livre Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on va résumer les derniers chapitres. Car comme on l'a dit plusieurs fois, tout ce qui vient dans les chapitres qu'on est en train de lire sont des ce qu'on appelle tafri'at, c'est-à-dire des sous-questions, des questions qui découlent d'autres questions qui découlent d'autres questions. Et comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, lui-même dans ce livre, et aussi le Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin, hafidhahumallah, dans son commentaire, qu'il y a des questions dont on n'a pas besoin d'entendre parler. Il y a des questions qui sont citées à la fin du livre, dont on n'a pas besoin d'entendre parler, parce qu'il ne découle pas d'action. Là, تترتب عليها على هذه المسائل عمل ناجز. Il ne découle pas d'actes qu'on nous demande de faire religieusement. C'est pour cela que, étant donné que nous sommes à la fin du livre, nous allons lire, inshallah ta'ala, ou résumer les derniers chapitres de ce livre en essayant de faire cette chose en deux cours, inshallah ta'ala, pour qu'on puisse commencer le prochain livre, inshallah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant les particularités, les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine du mariage. Elles sont divisées en quatre catégories. La quatrième est la suivante. Al-Qism al-Rabi'a. La quatrième catégorie, Makhtussa bihi min al-fada'ili duna ghayri. Ce qui lui est spécifique comme mérite et que nul ne partage avec lui. On parle ici dans des questions relatives au mariage. Et je ne vais pas tout lire, je vais résumer et prendre les questions, on va dire, je ne vais pas dire les plus importantes puisque tout est important dans le din, mais certaines questions. Parmi cette question, il y a la première de ce chapitre, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, en surat al-Ahzab, le verset 6, « An-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum » selon le sens rapproché. Ceci veut dire, le prophète a plus de droits envers les croyants qu'ils n'en ont envers eux-mêmes. Ils doivent le préférer à quiconque, ils doivent le devancer à quiconque, et ainsi de suite. Et ses épouses sont leurs mères. Ibn Kathir, rahimahullah, explique que ses épouses, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les mères des croyants, dans le sens du respect, de la considération, de les suivre, non pas dans l'interdiction d'épouser leur fille, car effectivement, quelqu'un qui épouse une femme qui a des enfants ou qui a des filles, ses filles, si ce quelqu'un a eu des rapports avec cette femme, cette fille lui devient illicite en mariage. Ici, lorsque nous disons que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, c'est dans le sens du respect de tout ce que vous venez d'entendre. C'est pour cela qu'on retrouve certains compagnons qui ont épousé des filles, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme qui? Naam. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Qui est-ce qu'il a épousé? Fatima radiallahu anha. Qui est la fille de qui? La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quelle épouse? De Khadija radiallahu anha. Ici nous voyons que le fait qu'elles aient épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mérite qu'elles ont gagné du fait qu'elles sont considérées comme nos mères. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ahzab aussi: Ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisa. Ô épouse du prophète, vous n'êtes comme aucune autre femme parce que vous avez épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Cheikh Abdurrazzaq. Étant donné qu'elles ont épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne sont comme aucune autre femme, car elles vivent avec le messager élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, cela ne veut pas dire que, étant donné qu'elles sont comme nos mères, les compagnons avaient le droit de s'isoler avec elles. Car Allah azza wa jal a dit dans le Coran aux compagnons qui voudraient s'adresser aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même sourate, Al-Ahzab, fas'aluhunna min wara'i hijab. Lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-leur derrière un voile. On n'a pas le droit, ils n'avaient pas le droit de s'isoler avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question: est-ce que nous disons des frères, des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont les oncles des croyants? Il y a dans ce sujet une divergence, mais Cheikh Abdurrazzaq hafidhahullah ta'ala a dit que nous pouvons d'un côté les appeler les oncles des croyants, comme donnez-moi un compagnon qui est le frère d'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man? Abdullah man? Abdurrahman? Naam. Radiallahu anhu. Abdurrahman, akhu Aisha. Aussi, Abdullah ibn Omar. Qui est-ce qu'il a épousé? Il a épousé Safiya? Là. Il a épousé Hafsa. Radiallahu ta'ala anha. Et donc, l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, on peut les appeler les oncles des croyants. Pas parce qu'il en découle des règles, parce qu'il découle de cette appellation des règles religieuses, mais simplement du fait qu'ils sont les frères des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, il n'y a pas de règle spécifique à ce nom qu'on leur a donné. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, et c'est l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala qui l'a cité. Est-ce que nous disons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le père des croyants? La réponse: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: innama ana lakum bimithli alwalid aw bimanzilati alwalid. Je ne suis pour vous qu'à l'image d'un père. Pourquoi? Du fait qu'il nous enseigne. Ici, quand nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre père, dans le hadith que nous lisons ici, il n'y a pas de contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal: Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Encore dans la même sourate, Muhammad n'est pas le père d'un de vos hommes. Walakin Rasul Allah wa khataman nabiyyin. Mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier. Donc d'un côté, Allah tabaraka wa ta'ala nie le fait qu'il soit notre Père, mais dans d'autres textes, on retrouve cette description. Car la paternité niée est celle du sang. Il n'est pas notre Père dans le sens où il n'est pas celui qui a eu les rapports avec notre mère qui nous a mis au monde. Par contre, il est notre Père dans le sens de l'enseignant, celui qui nous éduque, qui nous oriente, qui nous réforme, comme le fait le Père envers son fils. Aussi, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures femmes de cette communauté. Comme nous l'avons lu dans le verset précédent, لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَى. Vous n'êtes comme aucune autre femme. Et elles sont récompensées doublement. Et ceci, on le voit encore dans sourate Al-Ahzab. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنَ. Dans la fin d'un verset, Allah Azza wa Jal dit, en s'adressant aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celle qui parmi elles fait de bonnes actions et se dévoue à Allah Azza wa Jal, elle aura une double récompense. Ensuite, les deux meilleures épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Khadija et Aisha radiyallahu ta'ala anhuma. Les savants ont divergé. Quelle est la meilleure de ces deux épouses? Est-ce que c'est Khadija ou est-ce que c'est Aisha? L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: celui qui dit que Khadija est la meilleure dans tous les aspects ne sera pas épargné de critiques. Et celui qui dit que Aisha est la meilleure dans tous les aspects ne sera pas épargné de critiques. Car d'un côté, Aisha a des spécificités et de l'autre côté, on a Khadija radiyallahu ta'ala anha. Les spécificités de Khadija, c'est la première femme qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a apporté un soutien dont il avait besoin au début de la prophétie. Dans cela, elle a fait quelque chose que personne d'autre qu'elle parmi les épouses ont fait. Et Aisha radiyallahu anha, de l'autre côté, a amené de la science que personne d'autre que ses épouses a amené. Donc d'un côté, Khadija a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et de l'autre côté, pareil pour Aisha radiyallahu ta'ala anha. Aussi, il est interdit aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum d'épouser les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissé veuve après son décès. Et ceci à l'unanimité des savants. Pourquoi? Qui est-ce qui connaît la réponse? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le droit, du moins les compagnons n'avaient pas le droit d'épouser les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les veuves qu'il a laissées après son décès? Parce que sont les mères des croyants. Pas que ça. Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront ses épouses au paradis. Étant donné que lorsque l'homme meurt, si la femme, on va plutôt parler de la femme, lorsque la femme entre au paradis, elle sera avec le dernier époux qu'elle a eu sur terre. Donc si elle a épousé quelqu'un, puis il y a eu séparation, qui s'est suivie d'un deuxième mariage, enfin elle décède, son mari au paradis est le dernier. Et Ibn Kathir rahimahullah rapporte le récit où le compagnon Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu était à l'agonie. Quelle fidélité, écoutez ça. Il était à l'agonie radiyallahu ta'ala anhu quand son épouse lui dit: oh Abu Darda, tu es venu me demander au mariage auprès des miens, c'est-à-dire dans ma famille. Ils t'ont donné en mariage. Ou ils m'ont donné à toi, Naam, en mariage. Maintenant, je te demande en mariage, juste avant qu'il meure. Elle lui demande de rester avec lui au paradis, bien sûr, avec la permission d'Allah, Azza wa Jal. Il lui dit: Fala tatazawwaji ba'di. Ne te marie donc pas après moi. Par la suite, va devenir le gouverneur des croyants, Muawiyah, radiyallahu ta'ala an. Muawiyah n'est pas n'importe qui. C'était le scribe, celui qui écrivait, il consignait les versets, la révélation d'Allah, Azza wa Jal. C'est le premier roi parmi les rois musulmans. Et il y a eu beaucoup de mérite qu'a ce compagnon Muawiyah radiyallahu ta'ala an. Muawiyah, le gouverneur des croyants, le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé l'épouse de Abu Darda, la veuve du moins, en mariage. Et elle a refusé. Puis quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle a agi ainsi, elle a expliqué qu'elle a refusé parce qu'elle a dit, elle a promis à son mari de ne pas épouser quelqu'un après lui pour le rejoindre au paradis par la grâce d'Allah et sa permission. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est interdit aux compagnons d'épouser, qu'il était interdit aux compagnons d'épouser les veuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question, celui qui insulte, ou du moins qui accuse Aïcha radiallahu ta'ala anha d'avoir commis l'adultère, comme l'ont fait les hypocrites à l'époque et les chiites à la nôtre, il doit être exécuté par l'autorité, et ceci à l'unanimité. Il est exécuté, et comme a signalé Cheikh Abdel Razzaq, en tant qu'apostat, c'est-à-dire mécréant. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha radiallahu anha dans le Coran, dans Surat Nour. Et à partir du moment où Aïcha a été innocentée, quiconque l'accuse après qu'Allah l'ait innocenté a démenti le Coran. Et démentir le Coran est un acte de mécréance majeure. Ainsi, celui qui continue à l'accuser de cette chose horrible a non seulement démenti le Coran, mais il doit être exécuté. Nous parlons ici des autorités religieuses. Et il y a deux avis sur les autres épouses. Si elles sont accusées aussi, il y a deux avis. Certains disent qu'il est apostat et d'autres disent non. Et Cheikh Abdel Razzaq retient que c'est pareil. Il est apostat car elles sont les mères des croyants, elles sont pures, elles ne peuvent pas être accusées de cette façon. Aussi, celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être exécuté, pareil, par l'autorité religieuse, que ce dernier soit un homme ou une femme, en raison de la multitude de hadiths relatés à ce sujet, parmi lesquels le récit de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque un homme aveugle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une femme qui, lorsqu'elle se mettait en colère, n'hésitait pas à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a exhorté cette femme et lui a prodigué le conseil, et ceci à plusieurs reprises. Mais cette femme n'a pas su se retenir. Un jour, l'homme aveugle entend cette femme prononcer cette dispute. Il ne peut plus supporter. Il avait une épée à la main, il prend cette épée et transperce le ventre de cette femme qui tombe morte. Cette histoire est racontée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'aveugle n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qui est-ce qui a exécuté cette femme. L'aveugle répond: moi, au messager d'Allah. Puis lui dit: depuis tant de jours elle t'insulte, j'ai patienté, mais cette fois-ci je l'ai entendu dire telle et telle chose et je n'ai pas pu patienter, j'ai donc fait ce que j'ai fait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala ishadu anna damaha hadar. Soyez témoins que son sang n'a pas de valeur. Que son sang n'a pas de valeur, c'est-à-dire que son sang est licite à cause de ce qu'elle a fait. Et dans l'islam, la sentence de celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que vous venez d'entendre. Mais bien sûr, ceci ne se fait que par l'autorité. L'autorité, non pas par le commun des gens. Celui qui le fait parmi le commun des gens a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala et a transgressé ses limites et a fait du mal à l'image de l'islam. Donc, ceci a un rapport avec ce que nous vivons dans ces époques où les khawarij et les égareurs prétendent défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils dépassent les limites. Donc ils n'ont pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté qu'un homme a insulté Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Celui qui était avec lui lui dit: veux-tu que je lui frappe son cou? C'est-à-dire l'exécute. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit: ma kanat li ahadin ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci ne doit être fait avec personne d'autre que le prophète, ou pour personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ici qu'on retire que c'est une spécificité. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a un écrit très complet dans ce sujet qui s'intitule As-Sarimul Masloul ala Shatim ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'épée dégainée contre celui qui insulte le messager. C'est un écrit dans lequel il a longuement traité ce sujet. Cheikh Abdelrazak dit que ce qui l'a poussé à écrire ce livre, c'est que dans son époque, il a vu un chrétien insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a écrit ce livre pour détailler tous les hadiths, les textes qui nous demandent ou qui enseignent comment doit-on agir face à cette grave chose. Puis il a demandé aux autorités d'appliquer sur cet homme la sentence. Est-ce qu'il l'a appliqué ou pas? Allahu a'lam. Dans le chapitre suivant, il s'agit ici du chapitre des combats et de la lutte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses particularités dans la lutte, le fait que lorsqu'il se vêtissait de son bouclier, il n'avait plus le droit de l'enlever. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Dès qu'il portait son bouclier pour aller au combat, il ne pouvait plus retourner sur ses pas. Il était obligé de continuer dans sa lancée et d'aller combattre sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah décide de ce qu'il décidera tabaraka wa ta'ala. Et nous l'avons vu dans Ghazwat Uhud, dans l'expédition militaire de Uhud, lorsque les compagnons ont discuté sur la meilleure stratégie à suivre. Est-ce qu'il faut rester dans la ville de Médine et laisser les ennemis venir puis les combattre à l'intérieur de Médine, ou bien faut-il quitter la ville? Puis après hésitation des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez lui et a apporté son bouclier. Lorsqu'il est sorti, le compagnon lui dit: au messager d'Allah, veux-tu retourner là chez toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: un prophète n'a pas le droit d'enlever son bouclier une fois qu'il l'a porté. Cheikh Abdelrazak dit: nous voyons donc que c'est une spécificité des prophètes et non pas du prophète Mohammed particulièrement sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ce qui a été cité dans cet écrit magnifique d'Ibn Kathir rahimahullah, et comme je vous l'ai dit, on a passé quelques questions que Ibn Kathir lui-même a décrit comme étant des sous-questions. Parmi les questions, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'obligation de consulter ses compagnons avant d'agir lorsqu'il s'agissait du combat, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: wa shawirhum fil amr, dans sourate Ali Imran, et consulte-les dans l'affaire. Et Ibn Kathir, après avoir cité ce verset, a cité l'avis de l'imam, du moins ce qui est rapporté du compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, si ce n'est qu'il va juger, ou ce hadith va être jugé faible par les gens de science, dans lequel il est dit: ma ra'aytu ahadan akthara mashuratan li ashabihi min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas vu quelqu'un consulter ses compagnons plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens de science ont jugé ce hadith faible en raison d'une interruption dans la chaîne de transmission. Et l'imam Shafi'i a dit, قال الحسن, الحسن c'est le tabi'i, الحسن Basri, لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن به الحكام بعده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin de consulter, mais il a voulu le faire pour être pris, pour être suivi par les gouverneurs après lui, qui eux ne sont pas messagers et doivent consulter. Ibn Kathir termine en disant فَعَلَ هَذَا لَا يَبْقَى مِنَ الْخَصَائِصِ. Ainsi, ce point ne fait pas partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'obligation de faire preuve d'endurance lorsqu'il rencontrait l'ennemi, quand bien même le nombre de l'ennemi serait plus grand que celui du prophète et de ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, nous l'avons vu à travers la sira. Nous avons vu que dans la bataille de Mu'ta, par exemple, dans la bataille de Hunayn et d'autres batailles, qu'il y avait devant eux un nombre considérable d'ennemis d'Allah Azza wa Jal. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le dos d'une mule et eux étaient sur des dos de chevaux. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se diriger tout droit face à l'ennemi avec sa mule. Et il va dire « Je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Car il est le messager, il ne doit pas faire marche arrière. Et d'ailleurs, un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنْ أَبَوْ فَوَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ يَعْنِ قُرَيْشًا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que s'ils refusent de se soumettre, je les combattrai jusqu'à ce que mon cou soit tranché. C'est-à-dire, je les combats jusqu'à ce qu'on me tue. Je ne m'arrêterai pas de les combattre. Et ceci, il le dit en jurant, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points cités par Ibn Kathir dans ce livre, ceux que nous avons déjà vus auparavant, ici, il s'agit d'une chose dans le combat. Il dit « Innahu lam yakun li nabiyyin kha'inatul a'yun » C'est-à-dire, un prophète n'a pas le droit de trahir avec le regard. Ça, on en a déjà parlé. C'est le fait de tourner le regard comme ça, soit pour faire allusion à quelque chose ou autre, ou pour faire passer un message, ou bien pour chercher à savoir par curiosité ou quoi que ce soit. Ce qu'on appelle la trahison de l'œil. Tu regardes légèrement avec ton regard. Le prophète ne pouvait pas faire ça, sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut, pendant la guerre, tromper son ennemi. Il peut, pendant la guerre, faire preuve de ruse et tromper son ennemi. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui ment à l'ennemi pendant la guerre n'est pas considéré menteur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans la sira quelques exemples. On a parlé de quelques exemples dans ce sujet. Et ainsi s'achèvent les spécificités relatives au combat. Il a cité d'autres règles, rahimahullahu ta'ala, parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait un différend entre deux tierces personnes, avait le droit de juger en prenant un seul témoignage, sans pour autant avoir besoin d'aller demander à l'autre personne sa version. Pourquoi ? Car il n'y a aucun doute sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas juger en fonction de sa passion. Il va juger en fonction de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut et légifère, azza wa jal. Ainsi, quand l'épouse de Abu Sufyan radiyallahu anhu s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'avarice de son mari qui ne voulait pas dépenser pour elle, le prophète lui a dit خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. Prends dans les biens de ton époux ce dont tu as besoin pour ta personne et tes enfants. Ce qui te suffit à toi et tes enfants. Le Cheikh Abd al-Razzaq dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit ici, n'a pas été demandé à Abu Sufyan sa version des faits. Et lui pouvait agir ainsi, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les questions citées par Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, la suivante. On a le droit de se nommer Muhammad, donc d'avoir le même prénom que lui, alayhi salatu wassalam, ceci sans divergence. Par contre, sur la question, a-t-on le droit d'avoir la même kunya que lui ? La kunya, c'est le surnom, en disant le père d'un tel. Il y a trois avis sur cette question. Le premier avis dit, il est totalement interdit de s'appeler, d'être surnommé Abul Qasim. Abul Qasim, c'est la kunya du prophète, son surnom, sallallahu alayhi wa sallam. Que le prénom de cette personne soit Muhammad ou autre. Retenez ça, vous allez comprendre pourquoi on précise ce point-là. Ils prennent pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati. Appelez-vous par mon prénom et ne vous surnommez pas par mon surnom. Le deuxième avis, donc le premier avis, c'est le madhhab de l'imam Shafi'i rahimahullah. Le deuxième, c'est le madhhab de l'imam Malik, qui a été d'ailleurs choisi par l'imam Nawawi rahimahullah, qui dit ibahatuhu mutlaqan. C'est totalement permis de se surnommer Abul Qasim, d'avoir le même surnom que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car c'était interdit pendant son vivant. Et à partir du moment où il est mort, on ne va plus faire de confusion. Parce que le but de l'interdiction, c'était de ne pas faire de confusion. C'est pour cela qu'un homme est entré dans le cimetière de l'Baqi'a et a interpellé un compagnon, Abul Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné et lui a dit, oui, tu m'appelles? Le compagnon lui dit, ce n'est pas toi que j'ai appelé, ô messager d'Allah. Et donc, pour ne pas qu'il y ait de confusion et qu'on croit qu'on parle du prophète quand on va dire Abul Qasim, on n'a pas le droit d'avoir sa kunya. Mais à partir du moment où il est mort, il n'y aura plus cette confusion. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Le troisième avis dit, yajuzu liman laysa ismuhu Muhammadan. C'est permis pour celui dont le prénom n'est pas Muhammad. Et la yajuzu liman ismuhu Muhammad est interdit pour celui dont le prénom est Muhammad. Car on ne doit pas en réalité unir le prénom et la kunya. Et c'est ce qui a été choisi par certains des gens de science. Wallahu a'lam. Parmi les questions citées par l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, le fait que les enfants de ses filles, les enfants de ses filles, donc parmi ses filles par exemple, Fatima, radiyallahu ta'ala anha, Umm Kulthum, ou autres, les enfants de ses filles peuvent dire qu'il est leur père, alayhi salatu wassalam. Attention, on ne veut pas ici dire que on peut les appeler, par exemple, Al-Hassan et Al-Hussein, les deux fils de Fatima et Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Quand on va les appeler, on va dire Al-Hassan ibn Ali, Al-Hassan fils de Ali. On ne va pas dire Al-Hassan ibn Muhammad, Al-Hassan le fils de Muhammad. Car ici, il s'agit d'affilier le père à son fils de sang. Ici, on dira Al-Hassan ibn Ali. Mais nous parlons d'une autre chose. Étant donné que ils sont les enfants de Fatima, et Fatima est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont ses enfants dans le sens où ils sont de sa descendance. C'est ça qui est voulu. Ils ont pris pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu Al-Hassan radiyallahu anhuma. Il s'est mis à le regarder et a dit « Inna bini hadha sayyid » « Mon fils que vous voyez ici est un noble ou un maître. « وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Peut-être qu'Allah va réconcilier par sa cause deux groupes de musulmans. Et dans l'histoire de l'islam, il y a eu une divergence entre deux groupes et celui qui les a réconciliés fut Al-Hassan radiyallahu ta'ala an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibni, il a dit mon fils, car c'est de sa descendance. Il est le fils de Fatima radiyallahu ta'ala anha. Parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est un mérite, car des gens peuvent être concernés encore à cette époque. Le fait que lorsque l'on va mourir, les liens ne serviront plus à rien. La filiation ou bien la généalogie de l'un d'entre nous ne lui servira à rien devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il soit le fils ou qu'elle soit la fille d'un tel ou de telle et telle personne, devant Allah tabaraka wa ta'ala, lui sera inutile. Sauf pour celui qui est de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition, comme cite Cheikh Abdelrazzaq, qu'il soit pieux et dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Car s'il est de sa descendance mais il n'est pas pieux, le simple fait d'être de sa descendance ne lui sera pas utile. Par contre, s'il est pieux et il est de sa descendance, il y aura un mérite particulier le jour du jugement dernier. Ils se sont basés sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fatimatu bid'atun minni. Fatima est une partie de moi. Yuridhuni ma yuridhuha. Me met en colère ce qui la met en colère. Wa yubsituni ma yubsituha. Et le contraire. Wa innal ansaba yawm al qiyamati tanqati'. Les liens, le jour du jugement dernier, seront rompus. Ghayra nasabi wa sababi wa sihri. À l'exception des miens, le résumé du hadith. Donc ici, il s'agit des liens de famille qui seront rompus dans le sens où il n'y aura plus aucune utilité d'être le fils d'un tel ou la fille d'un tel, sauf la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien entre eux ce jour-là et ils ne s'interrogeront plus. Exception est faite dans ce verset de ceux qui ont un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition bien sûr qu'ils soient croyants, pieux et qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite rahimahullah une autre question qui est la suivante. Parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nul ne partageait avec lui parmi sa communauté, il était le plus fort physiquement, le plus brave et le plus courageux. Il ne connaissait pas la fuite devant l'ennemi, que ce dernier soit fort, redoutable ou non. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, en une nuit, passait chez ses 9 épouses, ou bien chez ses 11 épouses. On a dit quoi la semaine dernière sur ce sujet? 9 épouses. Naam. À la kulli hal, il passait chez toutes ses épouses. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit il passait, c'est-à-dire qu'il allait chez son épouse, avait des rapports avec elle, allait chez la deuxième et ainsi de suite, dans la même nuit. Ils se sont étonnés. Et Anas radiallahu ta'ala anhu a dit: وَكُنَّ نَعُدُّهُ فِي قُوَّةِ ثَلَاثِينَ مِنْ أُمَّتِهِ. Il avait la force de 30 hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la force physique de 30 hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdelrazzaq a cité que le prophète Sulayman, alayhi salam, en une nuit, 90 épouses. Et ça, ça fait partie de ses spécificités. Alayhi salam. Tayyib. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. On s'est arrêté sur un point. Et on reprend la semaine dernière, la semaine prochaine. Pour terminer la semaine. Allah al-Ustad. Tellement que ça nous a perturbés, on se voit dans le passé maintenant. Allah al-Ustad. On se voit. Hein? Naam, 11 épouses, on avait dit. Au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est mort, il avait 9. On se voit la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala, pour terminer la lecture de ce livre. Inch'Allah, nisallah al-tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك